Aujourd'hui, donc, nous recevons le professeur Mohamed Touzi, qui est diplômé d'un diplôme d'études supérieures en sciences politiques à l'Université Hassan II. Et il a un doctorat d'État en sciences politiques à l'Université d'Aix-Marseille III. Le professeur Touzi est actuellement donc professeur de sciences politiques à l'Université Hassan II à Casablanca. Il est cette année le lauréat du prix Philippe Haber de la meilleure œuvre en sciences politiques. Il a publié plusieurs œuvres, dont Édification d'un État nouveau chez Albin Michel, Intellectuel et militant de l'islam contemporain au Seuil en 90, L'Europe, la France et l'islam en 90 également, Le renouveau religieux en Afrique en 95, et sa dernière œuvre s'appelle Monarchie et islam politique au Maroc, donc en l'an 2000. Bienvenue au professeur, merci.
Merci. Il est très difficile de prendre la parole devant une assistance aussi relevée, aussi nombreuse. Et il est aussi très difficile de régler le texte, donc d'avoir le niveau qu'il faut pour diffuser un certain nombre, disons, de données et d'informations sur un sujet très difficile, très complexe, qui est, dans le cadre géopolitique international actuel, la place de l'islam, à la fois en tant que religion, en tant qu'horizon de pensée et en tant que peuple au pluriel. J'ai choisi pour cette conférence le titre d'État islamique au singulier et religion islamique au pluriel. En fait, le titre de cette communication est un parti pris délibéré qui fait violence à la catéchèse qui a permis ma socialisation en tant que musulman culturel, ainsi qu'aux principes que j'ai reçus dans le cadre de ma formation académique occidentale. Il renvoie à une prise de position assumée en faveur de l'historicité et une mise en perspective d'un imaginaire unitariste qui a forgé notre représentation de l'islam. Pour les uns, en tant qu'altérité radicale, et pour les autres, en tant que stigmate indélébile qui rend possible l'existence de soi dans le monde. Il s'agit ici d'inverser la proposition d'un islam unique, entretenant des relations plus ou moins suivies avec des variations sous des formes historiques différentes, fruit des croisements de la géographie et de la culture, allant de la principauté andalouse aux États islamiques, en passant par les empires ottomans et autres. Une analyse historique et philosophique de l'islam, aussi bien dans le passé qu'actuellement, nous met en présence d'une religion plurielle, aussi bien à travers ses producteurs d'orthodoxie, les oulémas, que dans ses modes d'appropriation à travers le monde par les croyants. La thèse d'un islam unique signifierait l'acceptation d'une vision mythologique des acteurs en incorporant dans, sans discussion aucune, le discours idéologique sur le panislamisme, un concept créé à la fin du XIXe siècle à la faveur du mouvement de reflux de l'islam et dans une perspective de réforme initiée d'abord par l'Empire ottoman et prise en charge par les élites arabes et aussi par les élites indo-pakistanaises dans le cadre de ce qu'on a appelé la Nahda ou la Renaissance. On verra plus loin les vicissitudes historiques de ce concept et l'incapacité de ces élites à défier les logiques des États-nations qui vont utiliser souvent l'islam comme un référentiel second qui va venir très loin derrière le nationalisme et le socialisme pendant un certain temps. Mon propos va se divisée en quatre points essentiels. Donc, je vais essayer tout d'abord de vous entretenir de ces lieux communs de l'islam qui réfèrent à l'unicité, mais qui sont truffés de plusieurs niveaux qui rendent impossible d'embrasser cette unicité et de l'exprimer. En second lieu, je vais essayer de vous entretenir des aspects modernes et actuels de l'islam, à savoir tous les mouvements politiques ou religieux, messianiques ou non, qui se réclament de la religion musulmane. Et enfin, en troisième lieu, je vais essayer de vous parler des mouvements profonds de société dans le monde musulman, bien qu'il est très difficile d'embrasser du même regard tout le monde musulman. Donc ces mouvements profonds qui attestent d'une marche insidieuse, souterraine, d'une sécularisation. On est tenté de dire par provocation que le monde musulman, en tant que réalité homogène, ne se définit pas négativement par rapport à une altérité. On est aussi tenté de dire qu'en tant que catégorie intellectuelle européenne, surtout, depuis Montaigne, en passant par Voltaire, Renan, Goldizer et autres, l'islam serait une construction orientaliste qui ne manque pas de pertinence, mais qui a tendance à gommer toutes les dissemblances au profit d'une vision essentialiste, simple, mais politiquement efficace. En effet, quand on fait référence à la revendication mythique des musulmans, on est immédiatement piégé par l'idéologie. Le califat, qui est ce magistère politique, unifiant tout le monde musulman, qui fut présent jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à ce que l'Empire ottoman soit vaincu, et que Mustafa Kemal déclare la République en Turquie et se sépare symboliquement des pays musulmans et arabo-musulmans, cette référence symbolique donc, du califat n'était d'ailleurs pas partagée par tout le monde musulman. Historiquement, ni les rois baïbars de l'Inde, ni les communautés politiques berbères de l'Afrique du Nord et en Andalousie pendant un certain temps n'ont se sont sentis identifiés au califat, à ce magistère religieux. Pourtant, si vous le voulez, le lexique qui construit la référence unique et unitariste n'est pas composé uniquement de mots et de concepts, ni même de représentations. Au-delà de notions comme la Ummah, qui est la communauté islamique, comme le califat, pouvoir d'obédience religieuse, ou le jihad, guerre sainte, il y a aussi des lieux et des images qui prennent en charge les projections identitaires de communautés humaines disparates. Les appropriations de ces mots et de ces lieux sont diverses, au point de produire des religions souvent dissemblables, des hiérarchies d'obligations aussi souvent singulièrement différentes. Seul résiste à cette fatalité d'inscription dans le temps et dans l'espace, au travail profond de l'histoire, le mythe du gouvernement islamique idéal et du calife pieux ou du Mahdi, le Messie, dont la figure symbolique hante les imaginaires et constitue le principe d'espérance, pour paraphraser Marc Bloch, alors même qu'on ne dispose que de peu de faits historiques avérés pour nourrir cette image d'unicité. L'histoire du prophète Mohammed et de l'islam commence et finit avec le Coran, estime la plupart des orientalistes. Je ne vais pas les citer tous, Calder, Goldizer, Johansson, Peters, et aussi, paradoxalement, des penseurs musulmans contemporains, Laroui, qui est passé ici, Hashem Jaït, un Tunisien, ou Hashmawi, qui est un penseur égyptien. Hormis le Livre Saint, il n'y a quasiment aucun document d'époque pour nous renseigner sur le personnage historique du prophète et les événements qui jalonnèrent sa vie. Tout ce dont nous disposons sont des reconstructions postérieures, témoignages des compagnons repris bien plus tard dans la geste prophétique appelée Sirat Nabi. de Ibn Hisham. Ce constat, valable pour le prophète, l'est encore plus pour le mode de gouvernement, la façon d'organiser la succession politique. Le Coran fournit quelques éléments d'histoire sur les 23 années du cycle prophétique. Certaines sourates ou versets documentent des faits historiques attestés ou fournissent des réponses circonstancielles à des problèmes quotidiens, mais à aucun moment elles ne laissent penser à un statut d'exemplarité. La nature du pouvoir, les procédures de sa transmission, le référentiel de légitimation sont étrangement passés sous silence par le texte sacré, au point qu'à la mort du prophète, les compagnons, ses compagnons, se sont trouvés dépourvus de modèles à suivre. Très tôt, pratiquement quelques mois après la mort, même pas quelques jours après la mort du prophète, une joute oratoire a opposé les Muhajirines, ces exilés de la nouvelle foi venus dans le sillage du prophète à la Mecque, de la Mecque, et les Médinois qui lui ont permis d'asseoir son pouvoir. Ces joutes attestent de ce vide. La succession du prophète a été tour à tour justifiée par la loyauté, le savoir, les liens de sang et finalement la force. Le second calife, Omar, qui constitue actuellement l'un des modèles recherchés des gouvernements en puissance dans l'islam contemporain, Omar dans un élan autoritaire, rappelant la futuwa jahiliyenne, une sorte de démonstration de force faisant appel aux qualités de courage et de bravoure, mais qui réfère surtout à la culture anti-islamique, cette jahiliya tellement condamnée par l'islam. Omar aurait tiré son épée pour imposer sa solution au chef de file des Ansar, ces gens de Médine, et inscrire le cycle de vicariat du prophète, de ce nouveau pouvoir, dans la tribu de Quraysh, qui est la tribu du prophète. L'ère des quatre califes, qu'on retrouve actuellement dans tous les textes idéologiques des islamistes ou des oulémas revendiquant le pouvoir. Donc cette ère des quatre califes, Khulafa al-Rashidun en arabe, ou ces califes bien guidés, va structurer l'imaginaire politique des musulmans et les unifier dans une quête permanente de la cité idéale, dont la charpente doctrinale va être fixée à un horizon inaccessible. Quand on étudie la théorie de la khilafa, on se rend compte de cette inaccessibilité du modèle. À partir du IVe siècle de l'Égypte, il installera définitivement la rupture entre un idéal imaginaire et une réalité politique gouvernée par des rapports de force. Cette période inaugurale laisse cependant perplexe. Même idéalisée, son histoire offre quatre scénarios de succession avec trois régicides. Ce constat de l'absence d'un modèle politique est encore plus valable pour le corpus doctrinal qui a fixé les conditions de la piété et les formes des pratiques religieuses. Il a fallu trois siècles de débats intenses, de luttes souvent violentes, pour que se dégage l'architecture actuelle des islams. L'islam intéresse actuellement les musulmans à divers titres. Références culturelles, voie d'accès à la divinité, ensemble de pratiques rituelles, marqueurs identitaires d'à peu près 1 milliard de personnes. À l'intérieur de cet ensemble, les éléments de différence sont de loin plus nombreuses que les éléments de ressemblance. Très tôt, la question politique de la succession du prophète a introduit les premiers schismes politiques qui ont évolué en schismes religieux entre sunnites, chiites et kharijites, dont vous avez la représentation graphique derrière moi. À l'intérieur du sunnisme, on dénombre 4 rites principaux et autant qui ont disparu et tombé en désuétude. l'obédience à ces écoles juridiques a conduit souvent à des guerres et des dizaines de voies mystiques étaient aussi venues complexifier davantage les obédiences religieuses. Sur le plan ethnique, l'arabe, considéré comme la langue de la religion, est aussi le point de fixation des stratèges du Nouveau Monde et minoritaire. Moins de 20% des musulmans actuels sont arabophones. La majorité des musulmans sont des Asiatiques. Les plus grandes puissances islamiques sont en dehors du monde arabe. L'Indonésie, le Pakistan, l'Inde, avec une minorité musulmane de 150 millions d'habitants, et le Nigeria en Afrique noire. Ces pays, autant que les pays arabes, sont habités par de fortes minorités chrétiennes, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Palestine, le Nigeria, etc., ou résiduelles juives. C'est le cas du Maroc et du Yémen. La religion musulmane a connu aussi d'énormes mutations, aussi bien au niveau de sa production exégétique, ses interprétations, que dans ses composantes sociologiques. Au cours de ces 20 dernières années, les pays musulmans, totalement ou partiellement, ont connu de multiples bouleversements. Une expansion démographique qui participe de l'explosion démographique décalée du tiers-monde et une généralisation de l'alphabétisation, une urbanisation inédite et amplifiée par un exode rural massif. Cet exode a trouvé un exutoire dans une immigration sollicitée par les pays industriels et exacerbée depuis par un désir effréné de mobilité sociale et économique une fois les frontières fermées. De ce fait, l'islam est en passe d'être dissocié d'un territoire bien déterminé, aux frontières connues. L'Europe occidentale et l'Amérique du Nord comptent chacune une dizaine de millions de musulmans sociologiques, de culture ou de parents musulmans. Ils sont souvent citoyens de leur pays de résidence ou sont en passe de le devenir. En Europe centrale et orientale, la chute du mur de Berlin et le redéploiement identitaire des différentes communautés a bouleversé la carte des frontières religieuses, aux Balkans, mais aussi en Asie centrale et dans le Caucase. Ces mutations démographiques et géographiques s'accompagnent de très forts changements culturels au sortir du mode de production agraire. À partir des années 70, le monde musulman, à l'instar des autres pays non musulmans, a connu la généralisation relative de la scolarisation. Cette généralisation a produit des transformations radicales dans le tissu social. La majorité des jeunes adultes d'aujourd'hui, nés après les indépendances, sont alphabétisés, alors que leurs parents ne le sont pas, ou du moins le sont autrement. Le choc entre générations a été inévitable. Il a conduit à une remise en cause de la culture des pères, ou du moins à sa reconstitution sur de nouvelles bases et à partir de nouvelles compétences. La performance exégétique, ce savoir-faire religieux, est totalement déconnecté du système de transmission, est devenu totalement déconnecté du système de transmission personnalisé des anciens clercs appelés les oulémas. Une nouvelle classe d'intellectuels qui accède à la révélation à travers les livres apparaît et il revendique désormais les bénéfices de cette possibilité d'accès direct à la religion et aux textes sacrés. En outre, cette nouvelle génération n'a pas connu le colonialisme. La parenthèse nationaliste qui a légitimé les pouvoirs autoritaires des régimes, mais aussi le pouvoir autoritaire des pères, est totalement délégitimée par l'incapacité des vieilles élites à prendre en charge l'idéal de justice sociale et le projet de développement socio-économique. Ce changement qu'a connu le monde musulman a intéressé toutes les sphères de l'activité politique et économique, mais surtout la sphère d'activité exégétique. L'exemple le plus spectaculaire est le cheminement pris par un concept emblématique comme celui du djihad, qui a subi d'énormes réélaborations et réinterprétations qui ont finalement abouti à son désarmement, son désamorçage et son instrumentalisation dans des guerres non pas religieuses, mais idéologiques, et souvent entre musulmans, le cas de l'Iran et de l'Irak. Les exégètes insistent d'abord sur le fait qu'il s'agit d'une obligation optionnelle, susceptible d'être sublimée dans des actes de lutte contre ses propres vices et contre le penchant naturel vers le mal. Mais ceci ne veut pas dire qu'il ne peut pas être réactivé, étant en dormance dans la mémoire collective du groupe. Toutes ces mutations interpellent de nouveaux repères pour identifier l'islam et en rendre compte dans une perspective dynamique, en rupture avec les préjugés essentialistes. Un mouvement intellectuel inscrit à des distances variables avec ce large mouvement de rénovation de l'islam qui a débuté au début du siècle, appelé la Salafia, a conduit à entretenir la tension avec le legs des ancêtres et à redynamiser ce qu'on appelle l'ijtihad, cet effort de rénovation de l'exégèse et de travail de la révélation. On ne peut pas à ce niveau ne pas évoquer des intellectuels qui ont pris des risques sans renier leur foi, tels que Taha Hussein, ce romancier du début du siècle en Égypte, qui a écrit un livre intitulé « Fil Adab al-Jahili » dans la littérature pré-islamique, où de façon indirecte, il remet en cause le caractère non historique de la révélation coranique. Ou un autre, appelé Ali Abdelrazik, qui a écrit un livre sur les fondements du pouvoir en islam, où là aussi il remet en cause de façon très courageuse l'idée d'un califat ou d'un magistère religieux obligatoire en terre d'islam. On ne peut pas ne pas non plus évoquer Nasr Abu Zayd, actuellement à Leiden, en Hollande, qui a écrit un livre critique du discours religieux et qui a défrayé la chronique il y a 10 dernières années en étant condamné par les islamistes en Égypte à divorcer de sa femme, l'accusant d'impiété. On ne peut pas non plus évoquer l'imam chiite, Baqir Sadr, dont l'effort de rénovation de l'exégèse lui a coûté la vie. L'activisme islamique des États désireux d'utiliser la religion a été au centre de cet enjeu d'interprétation. Ce désir d'utiliser la religion dans le cadre des stratégies de légitimation interne et les projets panislamiques animés par des intellectuels montre si besoin est le caractère soit sentimental, soit idéologique de l'entreprise de construction d'un monde musulman unifié. Ce projet n'est devenu politique qu'après la chute du califat ottoman, à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais il a toujours gardé son caractère mythique, étant immergé dans une vision qui essaye de reconstituer les splendeurs du passé. Les entreprises politiques, maintenant, de mise en place d'un congrès islamique, ont été toujours, durant ce siècle, caractérisées par l'amateurisme. Le XXe siècle, notre siècle, qu'on est en train de... a connu, suite au traumatisme provoqué par la dissolution de l'Empire ottoman et la disparition du califat dont j'ai parlé tout à l'heure, plusieurs tentatives de ressusciter symboliquement cette unité. Toutes les stations ou les moments du Congrès islamique, à la Mecque en 1926, au Caire, encore en 1926, à Jérusalem, en 1931. Et ce, malgré le soutien des Britanniques, n'ont fait que constater l'inhumation définitive de ce projet d'un monde musulman unifié. L'aboutissement du projet de partition du continent indien sur une base religieuse et la domination de l'option prise par le nationalisme arabe a fait bifurquer cette dynamique unioniste vers une impasse. Elle trouve actuellement sa concrétisation sur un plan uniquement symbolique, dans l'organisation de la conférence islamique créée à la fin des années 60 et qui est plutôt un secrétariat permanent, sans pouvoir, en dehors des États, et le comité de Jérusalem, qui est un autre lieu de concrétisation partielle et mythique de cette identité panislamique et qui est surtout, qui a consacré surtout l'échec d'une mise en commun du discours sur Jérusalem. Face à cette incapacité des élites politiques en place, le monde musulman évoqué à partir de la fin des années 70 se confond avec ce qu'on qualifié les islamologues le mouvement islamiste. Dans les actes à la fois entre guillemets terroristes ou des actes de révolution ou de révolte au sein des pays musulmans sont connus de tous. Il faut préciser d'emblée que l'islamisation a été au départ une affaire des États. Ces États ont très tôt commencé par utiliser toutes les opportunités offertes par la religion pour asseoir leurs options autoritaires. Les politiques publiques religieuses, à partir des années 60, ont été toutes construites sur des bases séculières d'administration du culte. C'est le cas de l'Égypte, du Pakistan, de l'Algérie et même de l'Arabie. Il s'agissait d'asseoir le monopole de la production religieuse, de contrôler la formation des clercs religieux et d'islamiser le référentiel politique. On a vu même dans certains États fleurir du socialisme aux couleurs de l'islam. Ces entreprises politiques ont abouti souvent à une invention presque ex nihilo du statut du commandeur de croyants dans certains pays comme le Maroc et accessoirement la Jordanie et l'Arabie saoudite. L'islamisme, dont on a parlé souvent dans les médias, qui mobilise d'autres modes explicatifs, n'est pas né dans le vide. Il est l'enfant des politiques publiques autant que celui des processus de modernisation. Précisons d'emblée que la démultiplication des mouvements et des modes d'expression religieux nouveaux rend compte plus que toute autre chose d'une présence massive et prégnante d'une demande de redéfinition des contours d'un nouveau champ politique moderne. Ce champ devrait prendre en charge une demande politique de participation et donner sens aux stratégies de survie de nouveaux groupes sociaux, souvent coupés de leurs attaches communautaires à cause des mutations profondes qu'ont connues les sociétés musulmanes et dont on a parlé plus haut, à savoir l'urbanisation forte, la scolarisation forte et le rajeunissement profond de ces sociétés. Le sous-développement n'argumente que faiblement la thèse d'un monde musulman rural et archaïque. Il n'a pas empêché la société et ses sociétés de faire une irruption fulgurante dans la modernité. Les années 70 ont marqué le passage d'un système agraire dans la plupart des pays, basé, pour reprendre un anthropologue anglais qui s'est intéressé aux pays musulmans, Ernest Gellner, dans un ouvrage intitulé « Nation et nationalisme », sur un monopole de l'écriture par une minorité, consolidé par une distinction de la grande et la petite tradition, une stratification rigide et une prédominance de la ruralité comme mode de vie. C'est là les caractéristiques principales de cette forme d'organisation agraire que connaissaient la plupart des pays musulmans jusqu'à l'aube des années 70. À partir de là, ces pays ont tous, sans exception, sauf peut-être avec des retards, le cas de l'Afghanistan, sans passer à une forme d'organisation industrielle, même s'il n'y avait pas d'industrie. Cette forme d'organisation industrielle est caractérisée par une scolarisation massive, une remise en cause des stratifications traditionnelles, surtout le rapport au père et le rapport au patriarcat, une mobilité sociale et spatiale accrue. Il s'agit là des principales caractéristiques de toute définition donnée de la modernité. Celle-ci n'est plus l'attribut d'un monde désenchanté. Elle est l'objet d'une stratégie d'appropriation par la plupart des habitants de ce monde, y compris les musulmans. Et cette stratégie d'appropriation de la modernité chemine à travers des voies, je dirais, prophétiques, ouvertes entre autres par ces nouveaux intellectuels, son nouvelle masse des villes et des zones périurbaines que sont les islamistes égyptiens, pakistanais, nigérians ou marocains. En effet, quand on choisit l'option analytique d'opposer d'emblée modernisation désenchantée à archaïsme religieux, autrement dit, de faire l'amalgame entre idéaux de la modernité et travail de celle-ci au sein des structures sociales, les faits collectés, les observations faites de façon sociographique se trouvent automatiquement déconnectés des appareils interprétatifs. La majorité des analystes du réveil religieux sont confrontés à ce problème. Tous font le constat que les animateurs, acteurs et populations cibles du renouveau religieux sont irrémédiablement installées dans la modernité, tout en la désignant comme principal ennemi. On se rend compte que la lutte a pour objet plus les signes de la modernité que son contenu et qu'ils prennent le parti d'une reformulation, création de celle-ci. Un des idéologues islamistes marocains parle d'une islamisation de la modernité, et un tour sur le web nous permet de mesurer l'ampleur de cette maîtrise de la technique, des techniques modernes par ces groupes religieux. Dans le cas particulier de l'islamisme, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un mouvement structuré et organisé à l'échelle mondiale et même à l'échelle nationale des pays, mais plutôt d'un état d'esprit porté par une population souvent jeune, récemment urbanisée et scolarisée dans des écoles modernes. Ce ne sont pas les lauréats des Kutab, les lauréats des Msit, sauf pour le cas exceptionnel des talibans en Afghanistan. Mais ce sont des lauréats des écoles modernes, souvent des ingénieurs des grandes écoles et des cadres qui sont les animateurs de ce mouvement, de ces mouvements dits de l'islam politique. Ce constat se vérifie aussi bien au niveau des États qu'au niveau international. Et c'est ce constat qui a mené certains analystes à parler de l'impossibilité de l'accès à la modernité, enfin ce constat de l'irruption de ces, entre guillemets, hordes religieuses qui a laissé penser certains à une impossibilité d'une modernisation de ces pays musulmans. En effet, quand on évoque ceci, l'ombre de la théorie de Huntington sur le clash des civilisations s'impose à nous. Et elle en devient à la fois le fruit d'un imaginaire qui est aussi hanté par l'existence d'une internationale socialiste. En effet, historiquement, internationale islamiste, pardon, le lapsus. Historiquement, historiquement, les tentatives des frères musulmans des années 20 ou celles à peine plus anciennes des partis de libération islamique n'ont pas dépassé le stade de projet, et j'en ai parlé tout à l'heure. Mais l'explication de l'émergence de l'islamisme par référence à une crise identitaire, circonscrite au niveau de chaque nation, qu'ont développé certains islamologues contemporains, est très séduisante pour ne pas être suspecte. On a souvent développé l'idée du troisième âge, de ce qu'on appelait la fusée de la décolonisation. Et l'islamisme serait une sorte de révolution culturelle liée au nationalisme et inscrite en aval des indépendances. Cette thèse souligne trop une certaine continuité pour risquer de prendre en charge les fractures de génération. L'islamisme, dans cette thèse, deviendrait une machine de guerre en vue de la conquête d'une identité perdue, ou du moins trahie par la classe politique trop compromise avec l'Occident. Or, s'il est difficile de renier l'existence d'un projet de reconstruction de l'identité, et ces mouvements religieux et politiques en sont la preuve, ce qu'il est moins, c'est l'opposition systématique à l'Occident qui pourrait suggérer un retour de la culture, de la paroisse et un projet de repli sur soi totalement déconnecté de la modernité. Or, interroger la plupart des mouvements islamistes dans leur projet individuel cherche plutôt la mobilité dans le monde. En effet, l'islamisme n'est pas fixe, c'est un référentiel en construction. C'est une sorte de machine de guerre individuelle contre le repli. Sa trame doctrinale est loin d'être achevée. Depuis une trentaine d'années qu'on l'observe, plusieurs mutations ont été opérées dans le corpus de référence. Les idéologues puisent dans plusieurs registres pour offrir aux militants une sorte d'idéal type, cohérent, qui embrasserait tous les secteurs de la vie. Derrière l'uniformité du lexique usité par les frères musulmans égyptiens ou les militants du djihad ou les militants du Hamas ou les militants du FIS ou les militants du PJD au Maroc, se déploie une infinité de configurations pratiques en fonction des situations et du savoir-faire des acteurs. Il s'agit d'un bricolage qui n'en reste pas moins en situation plus que tout autre d'offrir une structure qui n'essaie pas d'offrir, plus que tout autre, d'offrir une structure de prise en charge, à la fois de la reconstruction identitaire, mais aussi de l'accès au pouvoir politique. On ne peut pas expliquer ce phénomène par l'expression de traditionnalisme par excès de modernité, même si cette explication pourrait nous satisfaire, vu les apparences des militants islamiques. Ce concept de traditionnalisation souffre certaines limites, dans la mesure où le travail politique et même idéologique de ces nouveaux groupes participe d'une création, réinterprétation, réinvention de la tradition, dans une perspective souvent d'appropriation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la modernité et d'une légitimation de l'assaut d'une génération de cadets qui convoite un pouvoir trop longtemps gardé par la génération de l'indépendance. Les enquêtes faites au Nigeria et même ailleurs ont montré de façon forte ce clivage générationnel. Et les jeunes ont tendance, au Nigeria plus qu'ailleurs, et même autant qu'ailleurs, de quitter par exemple les mouvements confrériques en le justifiant justement par la dictature des pères, parce que les mouvements islamistes, comme les mouvements Izala en Nigeria, leur offraient la possibilité d'une réalisation de soi. Il ne faut pas écouter uniquement le discours des protagonistes qui traduit une quête effrénée de la tradition première. Ce discours peut nous piéger et nous empêcher de voir les aspects très modernes de cette reconstruction identitaire et d'oublier le caractère diversifié des exégèses et leur multiplicité, ainsi que le lien étroit qu'elles entretiennent avec les contingences historiques et politiques de chaque pays. En 20 ans, plusieurs mouvements islamistes ont pris leur distance avec des référentiels traditionnels ou des idéologues qui ont été dominants dans les années 50 et 60, comme Sayyid Qutb, l'Égyptien, Abul A'la al-Mawdoudi, le Pakistanais, ou même, en remontant plus loin, Ibn Taymiyyah ou Abu Hamid al-Ghazali. Tous ces gens ne sont plus cités que, eu égard à leur pratique exemplaire, le référentiel idéologique est complètement évacué. L'islamiste actuel présente désormais ses propres idéologues qui négocient en son nom, et souvent politiquement, et s'inscrivent de façon ferme dans la modernité. Ces nouveaux idéologues sont Tourabi le Soudanais, Ghannouchi le Tunisien, ou Cheikh Yassine le Marocain, ou l'autre Yassine le Palestinien. L'islamisme est appréhendé comme une des réponses possibles à une crise identitaire. Mais s'il s'agit là de cette réponse, il s'agit aussi d'une réponse qui s'inscrit dans le cadre de la modernité. Olivier Roy, un auteur français qui a écrit un livre, un de ses derniers livres, L'échec de l'islam politique, rappelle à juste titre que les islamistes sont une étape vers le désenchantement du monde, dans la mesure où ils empruntent à la modernité le refus du retour à la tradition réelle au nom d'une tradition fantasmée. Ils refusent la religiosité populaire, la confrérie, le pouvoir du cheikh, l'enfermement dans le village et aussi le soufisme. Une enquête qu'on a effectuée dans les années 80-90 montre clairement que la ligne de démarcation entre les islamistes et les autres jeunes passe uniquement par l'engagement militant. Les deux catégories partagent le même référentiel et appartiennent au même univers mental. Sur une population estudiantine de 400 personnes qu'on a interrogées, 75% ne sont pas a priori hostiles à un discours de sensibilité islamiste et pensent que la charia est la seule solution au problème de l'heure. Mais ces mêmes personnes sont pour la mixité, boivent du vin, refusent de pratiquer la sexualité en dehors du mariage, mais au niveau du discours, mais la pratiquent quand même, et pensent que la valorisation de la religion ne passe pas nécessairement par un rejet du progrès technique. L'idée que l'islamisme soit une conséquence directe des processus de modernisation mérite qu'on s'y attarde. L'islamisme peut être envisagé comme une réponse ponctuelle aux besoins de mobilité sociale et de relocalisation dans le monde. En effet, le paradoxe d'un besoin de mobilité spatiale et sociale extrême et de référent en apparence fixe caractérise l'islamisme. Les Tablighs sont un groupe indo-pakistanais présent dans une centaine de pays, y compris en France, ont en quelque sorte inauguré ce cycle migratoire par une pratique pieuse, mais une pratique pieuse du voyage. Mais si l'islamisme européen qui préfigure ce qu'aurait pu être l'islamisme dans le monde musulman, sans les cloisonnements imposés par les États-nations et la difficulté à passer des frontières très étanches, la facilité de déplacement des islamistes dans l'espace européen, leur grande mobilité, rend compte d'un besoin lancinant de se soustraire à un environnement verrouillé. Je vous renvoie ici à toute cette circulation intense des imams entre Londres, Bruxelles, Paris, Amsterdam et d'autres pays. En effet, l'islamisme offre en quelque sorte une possibilité mentale de s'affranchir d'une culture du village et joue la fonction de ce que les sociologues de la modernité appellent un système abstrait de référence capable d'universaliser les repères dans une perspective de mobilité extrême, tout en les dotant d'un contenu fortement localisé et fixé pour tout, une fois pour tous. Quand on dit ça, l'ombre du paradigme de Huntington, qui a écrit le Clash des civilisations, plane sur nous tellement fort qu'il amplifie notre désir d'identifier la menace. Malheureusement, la globalisation est en train de mélanger les repères, des musulmans et des chrétiens contre des orthodoxes au Kosovo, et avant cela des chrétiens stationnés sur la terre sainte de l'islam, commandant des troupes musulmanes, pour mettre à genoux un tyran qui a mobilisé au désespoir de cause la machine idéologique du djihad et qui vient d'écrire avec son sang une partie du Coran. Il s'agit du Saddam Hussein. Tout cela mélange les repères. Plus près de nous, on peut analyser les paradoxes de la déclaration de Barcelone aussi, qui pose aussi un net problème, un problème important de cohabitation entre les musulmans et les non-musulmans, mais aussi de cohabitation entre les nationaux des pays musulmans. Jusqu'à maintenant, nous avons raisonné dans le cadre d'un épistémé, pour parler jargon, caractérisé par la dualité, la cardinalité, la conflictualité. Or, ce qui nous interpelle actuellement dans la perspective de la globalisation, qui n'est pas uniquement un mot, mais une réalité, c'est principalement la caducité de ces repères, qui n'est en dernière analyse que l'une des conséquences institutionnelles de la modernité. La modernité n'est plus l'attribut d'un monde désenchanté, mais plutôt l'objet d'une stratégie d'appropriation, comme on a dit, qui chemine à travers des voies multiples, aussi bien dans les pays pauvres que dans les quartiers déshérités des métropoles industrielles. La centralité de la religion, revendiquée aussi bien par les hommes politiques que par le commun des mortels et aussi par les islamistes, pose un problème de nature théorique, celui du décalage entre le discours des acteurs, les représentations qu'ils se font de leur vécu et leur comportement quotidien. En effet, quand on analyse les formes de religiosité actuelles, ce qu'on appelle le marché des biens symboliques, et les indicateurs de cette religion, cette religiosité, dans une perspective de longue durée, on est frappé par des mutations profondes qui se sont produites depuis l'indépendance des États musulmans. On a l'impression d'être coincé entre deux tendances lourdes, apparemment contradictoires. D'un côté, la religion s'affirme comme le constituant identitaire principal. Elle est désormais le référentiel de base à partir duquel se tissent toutes les stratégies de conquête du pouvoir. Et ce que j'ai dit sur l'islamisme l'atteste. Et de l'autre, on constate qu'aussi bien les États que les individus et les communautés perdent de plus en plus l'initiative de cette construction identitaire. La religion, qui est passée de l'ordre de l'inné et du trivial à celui du construit, du pensé et de l'énoncé dans le discours, donne l'impression, tout en s'affirmant haut et fort, de refluer dans des espaces circonscrits. Et l'islam n'échappe pas à cette règle. En effet, il pâtit, comme d'autres religions, du mouvement général de désenchantement du monde et de redéploiement du sacré. La religion musulmane, dans sa version orthodoxe, si on veut risquer une hypothèse, est de plus en plus chassée vers la sphère politique. Elle est l'objet d'un enjeu d'appropriation entre acteurs publics. Alors qu'au niveau des individus et des petites communautés, les stratégies du vécu relèvent du bricolage, de confection d'équilibres instables entre plusieurs registres de religiosité. Même dans le cas de l'islamisme, dont on a parlé et qui est la forme la plus contemporaine de cette tentative de reprise en main par les acteurs de leur destin religieux, on se rend compte que celui-ci n'échappe pas à ce constat général. Quand la sensibilité islamiste est appropriée dans la quotidienneté par le petit peuple, il est obligé de composer avec des pratiques considérées comme hétérodoxes ou profanes. Le hijab, le chapelet, la prière collective, la lecture des journaux, l'islamisation du discours cohabitent avec la vénération du saint du quartier et la fréquentation assidue de la voyante. On ne peut pas nier dans le sillage d'un certain nombre de sociologues des religions l'extrême pluralité des expressions de religiosité, comme celle des modes de prise en charge normative du sacré par les communautés aussi bien rurales qu'urbaines. Ces formes prennent plusieurs manifestations, ou se font à travers plusieurs manifestations, aussi bien religieuses, magiques que profanes. Pour récapituler et finir, je dirais qu'on est piégé par une impression très forte de réalité qui nous renvoie une religion omniprésente et plurielle, et une réalité quand on est appelé à mieux observer, qui laisse penser que la religion est de plus en plus cantonnée dans des espaces bien déterminés et dans des formes d'expression obéissant désormais à une logique de standardisation. Certaines tendances anticipent la transformation des pratiques culturelles en manifestations folkloriques, d'autres en manifestations plus profanes. Des fêtes religieuses de saints sont devenues de plus en plus de simples festivités aux semaines culturelles dans plusieurs coins du monde musulman. Le constat de naissance de mouvements religieux politiquement puissants ne peut pas occulter le recul de la religion de plusieurs secteurs de la vie mondaine. Il suffit d'observer attentivement la scène religieuse depuis quelques années pour être frappé par un mouvement apparemment, comme on l'a dit, contradictoire. Et d'être frappé surtout par cette façon quand les musulmans, à l'instar des autres personnes de religion, d'autres religions, de bricoler leur équilibre religieux entre différents comportements et différentes statures. En effet, de plus en plus, l'entrée dans le temps religieux est ritualisée pour mieux signifier les discontinuités de l'espace-temps et signifier aussi le passage du religieux au profane. L'adoption de costumes et de langages appropriés permet certes de décupler l'intensité religieuse et de séparer les séquences de vie, mais marque de façon forte l'existence de deux modes d'existence, un profane et un mode religieux. Même dans les moments les plus critiques où la confusion est souhaitée, étant la seule voie du salut personnel, le retour au temps prophétique est sabordé par les facteurs de coût, voire d'impossibilité matérielle. L'initiative de l'organisation de temps et de l'espace n'appartiennent plus aux croyants. Ils sont obligés de s'inventer des compromis et de vivre une religiosité sous des contraintes, à la fois de la vie moderne, mais aussi des champs politiques éclatés et dominés par des régimes autoritaires. Je vous remercie.
La question que je souhaiterais poser à l'orateur est la suivante. Comment l'islam, qui semble être une religion très traditionnaliste, dans ce qui ressort de son exposé, peut se mettre à coexister avec une société qui est de plus en plus laïque, où la notion de religion est devenue une notion d'un droit de l'individu et non pas une notion de l'État, et où est-ce que cela risque de mener dans cette contradiction?
C'est une question très, très importante par regard à la place qu'occupe le discours sur la laïcité dans le cadre d'un certain nombre de pays musulmans actuellement. Là, il y a en gros deux thèses au niveau de l'histoire de la pensée musulmane. Une première thèse qui soutient que l'islam, du fait même de l'absence, je dirais, d'une tradition fixée, du fait même de cette possibilité d'accès direct au texte coranique, peut développer des attitudes de prise en charge individuelle de la révélation. Et dans ce cas, rendre possible, je dirais, une attitude laïque au sens pas français du terme, une attitude laïque au sens plutôt anglo-saxon, où la religion, où la construction de la laïcité ne s'est pas faite contre la religion, contre l'Église, mais avec l'Église. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse part du principe que, effectivement, l'islam offre dans ses différents développements, et surtout dans la confusion qu'il opère historiquement entre pouvoir politique et pouvoir religieux, et surtout la tentation permanente qu'ont eu les titulaires du pouvoir en islam, que ce soit des chefs d'État des présidents de république ou des rois, cette tentation continue d'utiliser et d'instrumentaliser la religion pour légitimer et installer leur pouvoir. L'un des travaux les plus intéressants que j'ai cités au début, qui rendent compte de cette trajectoire, je dirais particulière, d'arriver à une forme, non pas de laïcité, comme on l'a dit, mais de séparation de la religion et du politique, c'est le travail d'Ali Abdelrazer dans les années 20. Ali Abdelrazer, qui a été traduit par un penseur marocain qui s'appelle Abdul Ansari en français, soutenait cette idée simple. C'est que le pouvoir, la religion musulmane, n'a pas réglé la question du pouvoir politique. Il n'a pas réglé religieusement la question du pouvoir politique. Et par conséquent, cette absence de réglage de la question du politique libère les musulmans de tout impératif religieux concernant l'organisation de la cité. Bien sûr, le livre de Ali Abdelrazek a été condamné par l'université Al-Azhar en son temps. Il ressort actuellement, dans les années 80-90. Il est consolidé par un certain nombre d'écrits nouveaux, notamment les écrits de Hashem Jaït, de Mohamed Talbi en Tunisie, mais surtout les écrits de Hashmawi en Égypte, qui essaye de construire une forme de séparation du religieux et du politique particulière et spécifique aux sociétés musulmanes.
À quoi correspond le titre de commandeur des croyants? Mohamed V était commandeur des croyants. Est-ce que Mohamed VI suit la tradition et dans quel cas, à quel niveau?
Cette question, je dirais, particulière. Au Maroc. Elle est. Il y a une grande. Le titre de commandeur des croyants dans l'histoire musulmane a été pris en charge dans l'histoire marocaine particulièrement par l'un des princes almoravides qui, dans un désir de se soustraire à la domination du califat abbasside, s'est fait appeler commandeur des musulmans, pas des croyants. C'est Youssef Netachfin. Maintenant, l'histoire récente du titre de commandeur des croyants rend compte de tout un travail de réinvention de cette tradition. Entre 1956, date de l'indépendance du Maroc, jusqu'à pratiquement 1975, le titre de commandeur des croyants était tout à fait absent du lexique politique marocain. Il était, d'ailleurs, le roi s'appelait sultan sous le protectorat, donc c'était un sultan, ce qui est un titre qui renvoyait plus à l'exercice de l'autorité, je dirais, profane qu'à l'autorité religieuse. À l'indépendance, il s'est fait appeler roi, donc on a parlé de royauté, ce qui était un signe de modernisation de l'institution. Mais dans les années 75, il y a eu, 75, 76 jusqu'au 80, il y a eu une conjonction de deux choses. Un travail politologique, donc de sciences politiques, dont certains nombres d'auteurs qui ont évoqué le titre, et c'est l'un des principaux, c'est John Waterbury, dans son ouvrage traduit en français « Commandeur des croyants », qui a un peu justifié l'omniprésence, la domination du roi par cette référence religieuse. Et le deuxième événement, c'est l'affaire du Sahara. Pendant l'affaire du Sahara, le Maroc a construit toute sa thèse de défense sur les liens traditionnels entre le roi du Maroc et les tribus du Sahara occidental. Et cette thèse a automatiquement obligé la monarchie marocaine à surdéterminer le titre de commandeur des croyants, qui finalement a fini par rendre service au pouvoir, parce que il l'a placé en dehors, dans le jeu politique et en dehors du jeu politique, étant le dominateur suprême. Le roi actuel n'a pas dérogé à cette règle, puisque là aussi, au moment de la succession, on avait deux possibilités de réalisation doctrinale et juridique de la succession. La première possibilité était de réactiver l'article 20 et 21 de la Constitution, qui réglait la question de la Constitution, ou de réactiver la vieille tradition de l'allégeance, Et le pouvoir, je crois, dans l'urgence, a choisi la deuxième solution, ce qui l'inscrit dans la continuité de son père.
Est-ce que ce qui fait la difficulté, ce qui fait la difficulté du problème que vous avez traité, c'est que, semble-t-il, il y a une opposition entre des valeurs communes, peut-être, mais des intérêts très divergents.
Oui, je pense que c'est pas une particularité de l'islam. Les religions n'ont jamais réglé les conflits d'intérêts. Ils les ont sublimés, mais ils ne les ont jamais réglés. Et il y a eu toujours cette tension très forte qui a été prise en charge de façon assez intelligente, entre guillemets, par la tradition musulmane. Si on prend par exemple comment les musulmans historiques ont entretenu un certain nombre de relations avec des principes figés qui sont souvent revendiqués avec force et souvent violence par les acteurs religieux. Par exemple, la question du hudoud, les limites, c'est-à-dire ce qu'on appelle le droit pénal musulman. Eh bien, quand on fait l'histoire pénale entre le 19e et le 20e siècle, dans des pays qui ont dit qu'ils ont appliqué, entre guillemets, la charia, c'est-à-dire la loi musulmane, on se rend compte que, à part l'Arabie saoudite, parce qu'il en a les moyens, il peut se permettre, disons, une sorte de manifestation spectaculaire d'un attachement à ces principes, la majeure partie des pays musulmans n'ont jamais appliqué le hudoud. Plus, le fiqh, donc le droit musulman, a développé tout un ensemble de pratiques, une science religieuse appelée la science des ruses, ilm al-hiyal, qui cherchait justement des compromis entre la fixité de la loi ou d'une interprétation fixe de la loi et le caractère mouvant des pratiques quotidiennes des gens. Au XIIIe ou XIVe siècle, par exemple, dans un des ouvrages, on a un énorme plaisir à feuilleter le Mi'yar de l'Ouancharisi, qui est un qadi de Fès d'origine algérienne. Sa manière d'aborder des problèmes très pratiques, comme par exemple boire dans une bouteille où il y avait déjà du vinaigre qui est devenu qui s'apparentait au vin, ou régler le bétaillage qui était dont certaines formes étaient interdites en islam, on se rend compte qu'il y avait un génie local qui cherchait à concilier le respect formel de la religion et les nécessités quotidiennes de la vie.
Oui, je voudrais tout d'abord féliciter l'orateur pour nous avoir fait brosser un tableau extrêmement difficile, à la fois historique et géographique, de l'islam. Et d'autre part, si vous voulez, un tableau brossé devant une assemblée qui n'est pas très au courant de ce monde, qui est de ce monde énorme, d'un milliard d'hommes. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses, mais je voudrais poser une question assez fondamentale. Vous avez cité, n'est-ce pas, le cas d'un qui concerne plus étroitement la religion islamique. Vous avez cité, par exemple, le cas d'un auteur égyptien, dont je n'ai pas saisi bien le nom, mais qui mettait en question le caractère non historique, disons, de la révélation islamique. Qu'est-ce que vous entendez par ça?
Oui. Bon, comme vous le savez, c'est un signe, si vous voulez, d'ouverture un peu de la religion qui ne date pas du XXe siècle, qui date du IIIe, IVe siècle. Vous savez que l'une des grandes questions doctrinales du fiqh a été d'abord de situer le Coran par rapport à l'histoire. Donc, comment organiser le Coran lui-même? Vous avez dans la traduction magistrale de Jacques Berck, et dans son introduction, il disserte longuement sur cette problématique, déjà de la classification, de la taxinomie coranique. Deuxième grand problème qui s'est posé, c'est il y avait ce qu'on appelle le problème du Nasir wal-Mansour, qui est le problème des versets abrogés. C'est-à-dire il y a des versets, on a relevé de tas de contradictions à l'intérieur du Coran. Troisième problème qui a agité un peu les oulémas et les clercs musulmans, c'est celui de la fixation du Coran. Vous savez que la fixation du Coran en livre écrit date de 30 ans, 35 ans après la mort du prophète. Donc c'est le Coran ottoman qui a choisi entre plusieurs versions possibles du Coran. C'est par rapport à ça que le mouvement de la salafia au XXe siècle, donc c'est un mouvement à la fois religieux mais aussi littéraire, a essayé d'aborder la question d'une lecture, je dirais, critique, mais critique au sens cartésien, à la fois du Coran, mais aussi du hadith, qui était plus accessible en termes de critique. En termes de critique, c'est les dires du prophète étaient plus accessibles en termes de critique. Et on a, en plus des choses qui étaient dites au 3e, au 4e, au 5e siècle, qui étaient très courageuses et très importantes, à partir du 20e siècle, parce que le monde musulman a connu quand même 4-5 siècles où à la fois la révélation, mais aussi tout l'ensemble des doctrines religieuses étaient indiscutées. Au début du siècle, on a eu Tahseen, donc qui est un des premiers Égyptiens à avoir étudié à la Sorbonne, donc ici en France, et donc qui était rentré en Égypte au début du siècle, aborder la question indirectement à travers la littérature pré-islamique, c'est-à-dire en disant que il faut appliquer à la littérature pré-islamique des procédés et des techniques modernes pour savoir qu'est-ce qui a été écrit en son temps et ce qui a été écrit postérieurement. Mais très vite, les oulémas ont compris le danger. Une fois posée la question à la littérature anti-islamique, puisqu'il s'agissait des mêmes rouats, des transmetteurs de la tradition. Et ils ont interdit ce livre. Mais cette manière d'aborder la révélation, qui trouve un peu sa concrétisation, je dirais, moderne, dans les travaux de Mohamed Harkoun, par exemple, qui appelle une sorte d'anthropologie coranique, a vu ses réalisations un peu violentes dans deux textes. Donc le texte de Nasr Abou Zeid, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un penseur égyptien contemporain, et qui a écrit un livre sur toutes ces questions qui permettent de douter de la révélation, c'était un croyant et un croyant pieux de surcroît, mais au moins d'interroger scientifiquement le corpus coranique à l'instar des autres religions. Et le sort de Nasr Abou Zeid est très intéressant parce que son texte a été d'abord attaqué par les clercs de l'université Al-Azhar. Pire que cela, il a dans le cadre d'une procédure que le pouvoir égyptien a favorisée, une procédure de hisba, donc un peu comme l'ostracisme grec, quoique la comparaison est un peu osée, c'est-à-dire de possibilité d'attaquer quelqu'un pour impiété. Et un avocat du Caire a attaqué Nasr Abou Zeid pour impiété, non pas pour le condamner religieusement, mais pour déclarer qu'une fois qu'on est arrivé à démontrer son impiété, on peut le faire divorcer de sa femme. Et Nasr Abou Zeid était obligé de quitter l'Égypte avec sa femme, et il est actuellement professeur de pensée islamique à l'université de Leiden. Mais c'est une question qui est présente actuellement. Il y a beaucoup de thèses en cours, aussi bien en Égypte, en Tunisie qu'au Maroc, qui essayent soit de proposer de nouvelles formes de réorganisation du corpus, surtout du hadith, soit d'interroger même le Coran dans ses différentes versions, lectures, écritures, etc.
Je viens d'assister aujourd'hui même et ici même à un colloque qui durait toute la journée sur le statut des femmes dans la recherche, dans la science et la technologie. J'aimerais bien que vous nous parliez dans cette suite pour moi, et je pense que ça va intéresser aussi l'amphithéâtre, du statut de la femme dans le Coran, mais replacé dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace de l'islam, de la femme.
Oui. Si on choisit une approche historique, je dirais qu'il faut toujours se avoir à l'esprit que le Coran est né, pour ne pas dire autre chose, dans un environnement tribal d'Arabie, patriarcal, où la femme avait un rôle très mineur, sauf exception. L'Arabie pré-islamique a connu des poétesses et des guerrières femmes. Le statut de la femme dans le Coran, effectivement, pose un problème énorme, mais rapporté à son temps, il est c'est le même problème posé par les autres religions. Quand on voit un peu la place de la femme dans la religion juive, elle est aussi difficile à soutenir qu'en islam et même dans le catholicisme classique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les différents droits positifs actuellement dans les pays musulmans ont entretenu ou ont résolu cette relation difficile entre le statut de la femme dans la tradition, je dirais, religieuse et le statut de la femme actuellement vu les transformations récentes. Eh bien, il y a très peu d'espoir dans les pratiques des pays musulmans actuellement sur cette question. Et c'est un des points d'achoppement dur actuellement dans les différents pays musulmans. La Tunisie, qui a réalisé, disons, l'avancée la plus spectaculaire, mais aussi à propos de cette question, et dès les années 60, mais surtout grâce à un homme, donc c'est à qui peut-être il faut rendre hommage, quoique c'était un dictateur, entre guillemets, c'est le Habib Bourguiba, qui avait construit un statut de la femme inspiré de la religion, mais qui est allé assez loin dans la réinterprétation des normes religieuses. Mais dans tous les autres pays, la question est au centre d'un débat très chaud, et souvent, les régimes font marche arrière pour éviter un déséquilibre brutal. L'exemple le plus spectaculaire, c'est celui du code égyptien des statuts personnels discuté l'année dernière. Et donc, au dernier moment, sur des questions très précises, par exemple, la liberté pour la femme de voyager. Vous savez que la femme ne peut pas voyager sans autorisation de son mari. Et le Parlement égyptien, en dépit du soutien explicite du président égyptien, a fait marche arrière. Encore plus près de nous, et plus près de moi personnellement, c'est le Maroc. Donc, au Maroc, l'année dernière, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité avait préparé un projet, ce qu'on appelle un plan d'intégration de la femme au développement. Dans ce plan d'intégration de la femme au développement, il y avait une centaine de choses à faire. Et parmi ces choses, c'est de changer le code du statut personnel marocain. L'affaire a été très chaudement discutée. Le côté positif de cette discussion, c'est qu'elle a permis de mobiliser au même moins deux camps. Il y a un réseau de soutien à la stratégie assez large de femmes et d'hommes, mais il y a aussi un réseau contre ces transformations. Ce qui était curieux, c'est de voir que le clivage dans ces deux réseaux, ces deux camps, ne passait pas par l'idéologie. C'est-à-dire qu'on avait aussi bien des gens de gauche contre et des gens qu'on pourrait qualifier de droite pour. Donc, il passait plutôt par une sorte de génération. C'était un conflit générationnel parce que l'enjeu de cette transformation a été essentiellement le patriarcat. C'est l'enjeu et le pouvoir du père et le pouvoir du mari dans le cadre du couple. Eh bien, le gouvernement marocain constituait une commission de conciliation. On a eu droit à deux belles manifestations. Une manifestation un peu pilotée par les islamistes, surtout à Casablanca il y a 3-4 mois, et une manifestation pilotée par les modernistes à Rabat. Et jusqu'à maintenant, le gouvernement a requis l'arbitrage du roi, lequel n'est pas intéressé de faire cet arbitrage parce que ça le met en péril, en quelque sorte, tellement lâche. Et elle a fait marche arrière pour ne pas prendre un peu ses responsabilités. Mais la question est posée, et elle est posée de façon très forte actuellement dans la plupart des pays musulmans. Et je pense que c'est dans les prochaines années, les clivages politiques à l'intérieur de ces pays passeront par le règlement de cette question.
On va devoir s'arrêter là. Donc, merci beaucoup, professeur Mohamed Touzi. Merci.